Française, français, belge, belge, monsieur le comte, monsieur le président de Pacotille, monsieur l'avocat le plus bas d'Inter, ma chère petite Follette, mesdames et messieurs les jurés, public chéri, mon amour. Quand il a fini d'écrire des conneries dans le dictionnaire, à quoi sert un académicien français ? À rien. À rien du tout. Non mais regardez-le, mesdames et messieurs les jurés. Voyez ce triste spécimen de parasite de la société qui trémousse sans vergogne son arrogance de nanti sur le banc vermoulu de l'infamie populaire. Voyez-le glandouiller sans honte dans ce minable tribunal de pitres grotesques, à l'heure même où des millions de travailleurs de ce pays suent sang et eau dans nos usines, dans nos bureaux et même dans nos jardins, où d'humbles femmes de la terre arrachent sans gémir à la glèbe hostile les glorieuses feuilles de scarole destinées à décorer les habits verts des 40 plésiosaures grabataires qui souillent le quai Conti du chevrotement comateux de leurs pensées séniles. N'avez-vous pas honte, monsieur d'Ormesson, de vous commettre ainsi avec ces 39 vieilles tiges creuses ? Rien dans la cafetière, tout dans la coupole. N'avez-vous point honte de vous exhiber dans cet affligeant gérontodrome ? Vous qui êtes encore jeune et fringant, malgré les rides affreuses qui commencent à défigurer de façon dramatique votre visage naguère aristocratique de beau poupon. N'avez-vous point honte, à votre âge, un grand garçon comme vous, Jeannot, de vous déguiser périodiquement en guignol vert pomme avec un chapeau à plumes à la con et une épée de panoplie de Zorro ? Est-il Dieu possible qu'un écrivain aussi sérieux que vous fasse partie des 40 papilles à tremblotte, tout juste encore bon à réchauffer leurs os cliquetants au soleil du front de scène en se demandant s'il y a un N ou deux N à Zigounette ? N'avez-vous point honte, Jean d'Ormesson, de fricoter dans les belles lettres en compagnie de Jean Missler, d'Henri Bordeaux, d'André Mauroy ou de Jean Dutour, autant d'écrivaillons tellement inexistants que je me demande s'il n'y en a pas déjà la moitié de mort. Est-il Dieu possible qu'il existe une précocité du gâtisme ? Peut-on être gâteux précoce comme on est éjaculateur mondain ? Enfant précoce, pardon ? Si cela était, cette question n'amènerait alors une autre encore plus terrible, monsieur d'Ormesson. Et c'est à vous que je la pose. Serait-il Dieu possible que des gâteux écrivent dans le Figaro ? Je ne puis le croire, mesdames et messieurs les jurés. C'est en 1635 que Richelieu de Rouault créa l'Académie française. Pourquoi ce nom d'Académie française ? C'est la question que tout le monde se pose, sauf Maître Rego qui s'en fout, du moment qu'il n'a pas froid aux genoux et qui peut brouter tranquillement sous son pupitre la morue séchée que sa tata Rodriguez lui envoie de Lisbonne en paquet fado. Pourquoi Académie française ? Eh bien, justement, pour éviter que les bougnoules étrangers ne vinssent poser leur cul basané sur les bancs des Français. Pourquoi Académie ? Alors là, c'est plus compliqué, je vous demande à tous un effort d'attention. Vous n'allez pas être déçus. Avant que Richelieu de Rouault ne le réquisitionnât, le magnifique bâtiment surmonté de la célèbre coupole et flanqué de deux très belles bâtisses que tout le monde connaît, sauf Rego, ce magnifique bâtiment abritait une boulangerie. La boulangerie du maître boulanger Jean-Baptiste Quai-Conti, où Henri IV lui-même venait acheter ses fameuses baguettes bien cuites que son amant Sully lui découpait en mouillettes pour les tremper dans le bouillon de poule au pot tous les dimanches. Il faut vous dire qu'à cette époque, on ne faisait pas le pain comme aujourd'hui. On fabriquait la croûte d'un côté et l'ami un peu plus loin. C'est pourquoi il y avait ces deux bâtisses. Les clients fortunés comme Henri IV ou Marguerite de Valois achetaient évidemment la croûte et l'ami. Mais les pauvres, qui depuis le début de l'humanité ont toujours eu des goûts simples, c'est vrai, j'en connais un qui n'a même pas de magnétoscope. Les pauvres, dis-je, n'achetaient que la croûte. Et quand un pauvre arrivait devant la double boutique de maître Jean-Baptiste Quai-Conti, il demandait « Pardon, notre bon maître, où c'est-il qu'il y a des croûtes ?» Et le brave boulanger répondait invariablement en montrant les deux portes « C'est là qu'il y a des croûtes et c'est là qu'il y a des mies. » Or, par un beau soir de printemps 1635, le cardinal de Richelieu, qui était de fort belle humeur, il venait de se faire amidonner la soutane par une jolie repasseuse de la rue Dauphine. Oui, c'est vrai, cette blanchisserie existe d'ailleurs encore aujourd'hui, 14 rue Dauphine. Vous pouvez vérifier, elle a seulement changé de nom. Elle s'appelait avant à la calotte qui lui. en hommage à Richelieu. Et aujourd'hui, elle s'appelle, je pense, le pressing du Sahel, nettoyage à sec. Donc, Richelieu se promenait, un peu raide, au bord de la Seine, lorsque son regard fut attiré par le trottoir souillé de miettes de pain à la hauteur de la boulangerie de Maître Quéconti. « Dégueulassum est !» dit-il en latin et en lui-même. Il fit mander dès le lendemain le boulanger et le tança d'importance pour cette dégradation de la chaussée. « Vous pourriez faire votre pain plus loin, » dit le cardinal. « Oh, vous savez, moi je fais où on me dit de faire, » rétorqua cet homme, qui était déjà parisien. Outré par tant d'impertinence, Richelieu ordonna qu'on lui coupât la tête, ce qui fut fait dans l'heure. Puis, pris de remords, il donna au bord de Seine, en cet endroit, le nom de Quai Conti. « Monsieur le cardinal, j'aime beaucoup ce que vous faites, » dit Louis XIII, qui était con comme un bourbon. « Mais que va devenir cette immense boulangerie dont vous êtes étate le chef ?»« Que sa majesté besogne en paix son autrichienne, j'y ai songé, » répondit Richelieu. « Je vais tout simplement remplacer toutes ces vieilles croûtes par des vieux croutons. » L'Académie française était née. Puis, s'avisant soudain qu'on était déjà en 1635, Richelieu et Louis XIII décidèrent qu'il était grand temps d'aller bouffer du Bosch s'ils ne voulaient pas que la guerre de 30 ans se terminât sans eux. Donc, Jean d'Ormesson, mon petit bonhomme, vous êtes coupable. La peine capitale ayant été abolie contre la volonté du peuple par un caprice des hordes roses hystériques qui font régner leurs lois laxistes dans ce pays, je demande néanmoins aux jurés un maximum de fermeté. Étant donné que l'accusé n'écrit pas avec ses pieds, je suggère qu'on lui coupe les mains.